Aujourd'hui, maman est morte.
Faites-vous quelque chose de sale. Faites-vous par exemple une chose dont vos parents ne savent rien.
Faites attention à bien savoir jusqu'où vous allez trop loin.
Outrepassez-vous les règles.
Tu t'appelles Buck. C'est ça. Ça rime avec fuck. C'est bien ça.
Le canard siffleur mexicain, un programme littéraire, musical et parfois cinéphile.
Il y avait donc Brassens, Léo Ferré, Mouloudi, Moustaki, qui est mon frère.
Salut Gonzalo,
comment te portes-tu ?
Très 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 bien, et toi ?
Super, tout va bien, tout va bien. De qui, de quoi nous parles-tu ?
D'un auteur pas très connu en fait, qui s'appelle Thomas de Wisme. Que j'ai découvert en écoutant une émission de radio sur France Inter, dans laquelle Flavien Berger, que tu connais peut-être, musicien électro, était invité. Ça s'appelle Invitation à la mélancolie. Un artiste est invité et on lui demande de décliner ses goûts, livres, films, etc. Flavien Berger racontait une histoire. En fait, il est beaucoup allé au Mexique, Flavien Berger. Et un jour, en revenant du Mexique, à l'aéroport, il tombe sur un type qui lui dit « Voilà, j'ai un petit souci, je dois ramener des bouquins et j'ai trop lourd dans ma valise, est-ce que vous pourriez en prendre quelques-uns dans la vôtre et puis me les rendre à l'arrivée, etc. » Donc Flavien Berger accepte de rendre ce petit service. Et en arrivant à Paris, Charles de Gaulle ou Orly, je n'en sais rien, il lui dit « Voilà, pour vous remercier, je vous enfile un bouquin. » Je m'appelle Thomas de Wisme, j'ai écrit ce bouquin qui s'appelle Corail ou La Molaire Sacrée. C'est de l'auto-édition que je fais fabriquer au Mexique. Et voilà, je vous le donne, c'est de la science-fiction. Et Flavien Berger explique qu'il lit le bouquin, qu'il le trouve très très bien. Et il explique dans cette émission de radio que si on veut l'acheter, ben en fait, il faut envoyer un mail à Thomas de Wisme, lui demander comment on fait pour l'avoir, lui envoyer un petit chèque et il nous envoie le bouquin. Donc moi, je me suis dit, ben allons-y, envoyons un mail à Thomas de Wisme. Ce que j'ai fait, et je lui en ai commandé deux, je me suis dit, je vais en offrir un quand même dans le lot. Et donc j'ai reçu très vite ce bouquin que j'ai lu pendant l'été. C'est de la SF pure, hein, mais voilà, ça m'a beaucoup intéressé. Et puis, je trouve que voilà, l'idée du gars qui écrit un bouquin intéressant, qu'il essaye d'éditer tant bien que mal, 30 exemplaires par 30 exemplaires, ouais, ça mérite qu'on en parle un petit peu. C'est un bel effort d'auto-édition.
Absolument. Et en plus, c'est surprenant.
Surprenant ? Dans quel sens ?
Ben de ce... Why don't you switch on the radio ? I refuse to discuss it any further. Oh, please, you must. Please don't treat me like a mental patient. Do you believe that? Not for a second. Do you realize what this means? Don't look for it, Taylor. That's the radio. Alors, ce qui est intéressant dans l'auto-édition, c'est pas la première fois que je lis des bouquins d'auto-édition, c'est que du coup, la relecture, avec quelques petites fautes de frappe, des virgules qui sont pas toujours passées au bon endroit, des petits mots oubliés, une ou deux petites fautes d'accord, bon, voilà. Mais c'est pas grave, ça fait partie de l'artisanat, c'est le petit défaut sur le petit coffre en bois fabriqué par l'ébéniste amoureux de son travail. Donc, ça fait partie du jeu. Et même dans les grandes maisons, il y a souvent des erreurs qui nous sautent.
Ça peut arriver aussi.
Je t'en prie.
La Molaire Sacrée, Corail, donc livre multiple facettes. On va commencer par en lire un petit extrait. En fait, on suit une galerie de personnages. Là, le premier personnage s'appelle Clochide. Et il a une mission qui est de dérober la Molaire Sacrée.
themselves in the blue.
Donc on parle d'un autre personnage qui s'appelle Jaco.
Bonjour. Maureen's got five sisters. They all got ass. One of them has eyes as big as Jolly Ranchers. Beautiful girl. She's a beautiful girl.
On enchaîne. Donc on parle d'un autre personnage qui s'appelle Jaco, qui va parler de sa relation avec Littorel Stax, dont nous avons entendu parler de la naissance tout à l'heure. Jaco commence une psychanalyse et évoque son histoire avec Littorel. Docteur, la dernière fois que nous nous sommes vus, vous m'avez demandé de me préparer à vous parler de ma relation avec Littorel. Enfin, par où commencer ? Par le début sans doute, hein ? Littorel et moi, on s'est rencontrés très jeunes. J'avais 7 ans et elle venait d'en avoir 8. Je l'avais abordée dans l'ascenseur qui nous emmenait à un cours de sciences naturelles. Elle avait peur du vide, comme moi. On s'est tout de suite bien entendu. On avait cette prof horrible, Madame Pi, qui était très sévère, mais aussi très intelligente. Elle avait des diplômes plein les bras. Elle nous terrorisait, mais en même temps, on l'admirait. Et puis surtout, ses cours étaient pour nous l'occasion de se retrouver. Mais en fait, après seulement 2 ou 3 cours, on s'est fait renvoyer. La prof avait plus ou moins accusé Littorel d'être une menteuse parce qu'elle disait être née pendant la grosse panne. Je ne saurais jamais qui avait raison, mais je me souviens qu'à l'époque, il me semblait impossible que Littorel puisse mentir. Alors j'ai pris sa défense. J'ai insulté Madame Pi de façon assez virulente. J'étais très remonté. J'étais en rage en fait. Pourtant, ça ne m'arrivait jamais de me mettre en colère comme ça. J'étais un enfant plutôt calme et réfléchi. Rétrospectivement, j'ai l'impression que la violence de ma réaction annonçait la couleur de mes sentiments pour Littorel. Un amour déraisonnable et sans limite. Je me souviens parfaitement du moment où on est parti du cours après s'être fait virer comme des malpropres. Littorel me tenait par la main, on s'en allait à grands pas et puis un moment, elle a murmuré d'une voix basse mais très claire « Qu'elle crève cette sale sorcière !» Je m'en souviens parce que ça m'avait un peu choqué qu'elle dise ça, même si moi aussi j'étais très en colère. Mais le plus surprenant, docteur, c'est que Madame Pi a été tuée l'instant d'après. À peine clitorel avait-elle fini sa phrase, qu'on avait entendu un effroyable claquement qui venait de l'endroit où se tenait le cours. Le sol avait tremblé sous le choc. Alors on est retourné voir. Une cloison pare-feu s'était actionnée sans raison apparente, juste au moment où Madame Pi se trouvait en dessous. Son corps avait été proprement écrabouillé. Docteur, il y avait une jambe et un bout de bras encore reconnaissables qui gisaient sur le sol, mais le reste du corps était réduit en une purée sanglante. Je revois très bien la scène. Quand on est arrivé sur place, la cloison était en train de remonter, emportant avec elle notre prof en bouillie. Il y avait cet intestin qui pendait de façon grotesque et qui a fini par retomber au sol. Nos camarades étaient encore assis par terre, sidérés et couverts de sang. Il y avait cette petite fille qui avait un bout de cervelle collé dans les cheveux et qui s'est mise à hurler. Elle n'osait pas toucher le débris de chair grisâtre qui commençait à lui couler sur le front et agitait vainement ses mains devant son visage. Un garçon s'est mis à vomir, immédiatement suivi par un autre. Puis les adultes sont arrivés et nous ont tous emmenés un peu plus loin en attendant que nos parents viennent nous chercher. Les gens étaient sidérés, personne n'avait jamais entendu parler d'un accident de ce genre. Tous se demandaient ce qui avait bien pu se passer. Tous, sauf Clitorel et moi. On n'a même pas eu besoin de s'en parler. On s'est regardé et on a su qu'on pensait la même chose tous les deux. On avait la certitude que c'était elle qui avait provoqué la mort de Madame Pi, que c'était une sorte de pouvoir qu'elle avait.
Here we are now, at the middle. More and more, I have the feeling that we are getting nowhere. Slowly, we are getting nowhere. And that is a pleasure.
Down, baby. We'll be right back. シャドウのねリミックスアルバム出てんだって清志。
マジで、すぐ買いに行かなきゃ。キーボード買ってきて。
ちょっと今すぐ行ってきます。
はい、調子頑張れ。
いえ、シャドウ。
This is it。
Qu'est-ce qui te séduit dans cet ouvrage, avancer dans un brouillard numérique?
En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que déjà le livre est assez mystérieux au début, c'est-à-dire que on a du mal déjà à cerner le monde dont il nous parle. Il faut attendre quelques chapitres pour essayer de comprendre cette espèce de monde de corail qui semble fermé, avec des naissances qui arrivent par des excroissances du corail, ce corail qui fournit l'alimentation. Il n'y a pas d'autre vie animale, il n'y a que des humains. Des enjeux politiques qui nous échappent un petit peu. Et après, il y a le récit qui est assez, moi, que je trouve intéressant, même si là, c'est très fragmentaire ce que je lis. Ce qui est pas mal après, c'est que petit à petit, il construit une dimension, je dirais presque philosophique et politique, comme on peut trouver chez Aldous Huxley, par exemple, dans certains de ses livres. Alors, je ne vais peut-être pas dire qu'on est sur le même niveau de littérature, mais enfin, il y a en tout cas cette volonté de brasser assez large et de poser des questions sur l'humanité, sur la valeur de la vie, le poids de la vie par rapport au numérique. Il y a des enjeux comme ça qui sont assez finement soulevés. Je trouve que c'est le talent du livre, au-delà d'un récit, d'un récit de science-fiction assez classique.
Et la mise en place d'un monde aussi.
La mise en place d'un monde. J'ai toujours aimé, moi, les mises en place de monde un peu différents. Puis tu te poses la question, est-ce que c'est une astéroïde qui est dans l'un, est-ce que c'est quelque chose qui est dans la Terre, est-ce que c'est, enfin, voilà, et on met beaucoup de temps à comprendre. Il faut attendre la fin pour le savoir, en fait, très concrètement.
Un dernier passage.
C'est comme ça que je l'avais prévu. On va maintenant, on rentre dans un livre d'histoire. Clitorel Stax a bien grandi, elle est devenue historienne et elle rédige son premier mémoire universitaire. Et donc on nous donne à lire des extraits de ce mémoire universitaire qui s'appelle La guerre de la dent. La guerre de la dent, les guerres de la dent, par Clitorel Stax, Bibliothèque Vasconcel, rayon histoire, publication numéro 437. 65-27-H. Retour aux origines. 1. L'année 0. D'où vient l'être humain? À cette question, la majorité des gens répondront sans hésiter que nous venons de la planète Terre, une boule flottante dans un espace infini. Bien que j'ai du mal à imaginer pareil univers, je me rallie à l'opinion générale sur nos origines. Comment expliquer autrement notre curieuse manière de mesurer le temps? Nos jours ont un regroupement de bases 7, la semaine, alors que nos années durent 365 jours. Or, 365 n'est pas un multiple de 7. Cette bizarrerie serait une réminiscence de cycles cosmiques visibles depuis la surface de la Terre, lesquels n'étaient pas nécessairement phasés entre eux. Sur ce point, je me fie aux explications données par Hauterque le Vieux dans son traité sur le système terrestre. On y apprend notamment que le satellite Lune recommençait son motif céleste tous les 29 jours et demi. Il était commun sur Terre d'utiliser ce laps de 29,5 jours comme unité de temps, le mois lunaire. Une unité de temps que l'on ne peut même pas exprimer en jours entiers, cela nous semble inconcevable. Par ailleurs, tout porte à croire que le biotope est bel et bien une construction humaine. Nous vivons dans un monde artificiel qui serait voué à une rapide entropie sans l'intervention des machines qui tournent en coulisses. La grosse panne de 1264 en est la preuve. En moins de 7 minutes, on a décompté 714 victimes. Comment, après ça, garder l'illusion d'une biosphère autonome? Nous vivons dans un monde assisté par ordinateur, cela au moins est tout à fait certain. Là où aucune certitude n'est permise, c'est sur la raison de notre présence ici. Je ne prétendrai d'ailleurs pas apporter une réponse à cette question, car elle relève du domaine de l'opinion personnelle. Ce que je peux en revanche affirmer, c'est que les premiers habitants du biotope croyaient unanimement en la théorie du grand voyage. Dès leur plus jeune âge, ils étaient éduqués dans l'idée que nous nous trouvons à l'intérieur d'un astéroïde propulsé vers une constellation lointaine à coloniser.
Bob Wood, National Program Director of the Chum Group, worked with us in producing...
Hold up, before we get started.
Guess who's coming?
It's...
Guess who's coming?
It's...
guess who's coming?
DJ Shadow. Back again. Who is he? Just your favorite DJ savior. Using and confusing beats that you never heard. 1990s. Put a smile on your face like Ultra Bright.
You're just fessing, man. I don't even want to hear about it. You're just fessing.
Hey, how you doing? Well, alright. Stop walking across my motherfucking stage, first of all. It's gonna be like that. It's gonna, I don't give a fuck how many records you think you made. Don't walk across my fucking stage. Not in front of me, at least. Shit.
Yo, beef soup.
Soup. Campbell's, chicken noodles, tomato.
Soup.
Yo, next up. Next up, yo, beef. Why don't you tell me who's next up?
Shadow, what is it, man? It's your little cousin Droopy, man. Sick with it, Lieutenant. Yeah, let's get into this next track, man. Turf Dancing. You know what I mean? Show them how we get down in the bay when we go dumb, Stewie Katooey, all on top of the cars, man. Turf Dancing, Federation.
I want to ask you a few questions, and I must warn you. Anything you say may be used against you. You realize, of course, this makes you an accomplice.
Did you hear something?
That's a rather difficult question. I'm convinced that he's the brains behind this case.
Alors, si jamais quelqu'un aurait envie de découvrir ce livre, en fait, c'est assez simple. Il faut envoyer un email à l'auteur, son email perso. Je donne l'adresse.
Bien entendu.
Jamais. Donc c'est devismetho@gmail.com. Donc devismetho, ça s'écrit D-E-V-I-S-M-E-T-H-O. Et on lui explique qu'on souhaiterait pouvoir acquérir un exemplaire de son livre Corail. Et il répond en général dans la journée. Il vous dit combien il y a de frais de port et vous lui envoyez un petit chèque et il vous retourne ça dans la foulée. Et il vous demande après si vous avez aimé. Vous pouvez lui faire un petit retour, enfin voilà, donc un personnage plutôt sympathique, en tout cas par échange de mail.
Tu as noué pas une relation, mais au moins une discussion.
Bah, si tu veux, maintenant que j'ai terminé le livre, j'aimerais bien lui faire un petit retour. J'ai pas encore eu le temps de le faire, mais voilà, j'aimerais bien lui dire ce que j'ai pensé, éventuellement
lui faire parvenir l'émission.
Lui faire parvenir l'émission, pourquoi pas. Ça, ce serait une option. Tu me diras quand le canard siffleur mexicain sera diffusé.
Lorsqu'il sifflera pour lui.
Et puis, je souhaite que ce livre puisse connaître une carrière un peu plus importante que ce qu'il connaît actuellement. C'est mérité. Il m'a dit, hein, dans les échanges que j'ai eu avec lui, qu'après l'émission de radio, il a quand même eu un petit moment de gloire de quelques jours, qu'il a eu quelques commandes de livres et tout ça, qu'il a trouvé ça bien sympathique, mais que malheureusement, ça s'est étiolé au fil du temps.
Bien, si juste on peut lui donner un petit coup de pouce, nous essaierons.
Thank you.
that is a pleasure.
Je te remercie.
De rien.
À bientôt.
Ah ben, avec plaisir.
Au revoir.
Ciao.
Il y avait donc Brassens, Léo Ferré, Mouloudi, Moustaki, c'est mon frère. Pour mettre pas les...